7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des droits humains. Comment mobiliser les citoyens? Il s'agit de la liberté d'expression, mais aussi du droit à la vie privée, avec bien sûr la liberté de disposer de son corps pour les femmes, ou d'aimer une personne du même sexe. Des sujets qui finalement touche à la vie quotidienne de tout le monde. Les réseaux sociaux ont largement amplifié la voix des citoyens ordinaires, mais cette mobilisation nécessite un travail méthodique pour faire savoir, pour dire « vous aussi, vous êtes concernés ». Nous allons en discuter avec nos invités. Aminata Dembélé, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être en direct chez 7 milliards de voisins. Vous êtes directrice de la plateforme de pétition en ligne change.org France, qui fête ses 10 ans de mobilisation pour donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Également avec nous, Katia Roux, bonjour.
Bonjour.
Chargée de plaidoyer à Amnesty International France, votre ONG produit un podcast en partenariat avec Radio France qui s'intitule « We Made It ». On l'a fait, ce sont en fait les mots de Ramisha, ancien prisonnier d'opinion égyptien, qu'il a prononcé à sa libération en janvier dernier. Ce podcast explique vraiment le travail des ONG et les ressorts de la mobilisation et de la pression sur les décideurs politiques. Également avec nous, Michel Thiriatangana, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes devenu un militant actif de la lutte contre la détention arbitraire avec votre association. L'association Atangana, tout simplement, les auditeurs vous connaissent bien. Vous avez passé 17 ans incarcéré dans les geôles camerounaises, libéré en février 2014. Et vous avez vous-même été considéré par les Nations Unies comme ayant été détenu arbitrairement pendant 17 ans. Et quant à vous, les voisins et les voisines, n'hésitez pas à nous appeler pour nous parler des mobilisations citoyennes dans votre pays, où que vous soyez dans le monde. Appelez-nous pour nous parler d'un sujet précis, bien évidemment. Vous pouvez nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. C'est le compte WhatsApp.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Alors forcément, on a pas mal de réactions d'auditrices à la suite de l'actualité aux États-Unis, actualité largement relayée sur le site RFI.fr, je vous le rappelle, hein. Et puis sur toutes nos antennes. Valérie Huguette à Kinshasa nous dit « Nous les femmes, nous avons le droit sur notre corps, nous devons décider quand et avec qui on peut avoir un enfant. La décision de la Cour suprême américaine est bien triste. » Et puis également Raïssa qui est en ligne avec nous de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Raïssa.
Bonjour Emmanuel, bonjour 7 milliards de voisins.
Raïssa, on est ravis de vous avoir au téléphone avec vous. Vous avez 27 ans et vous vous êtes sentie très concernée par l'actualité aux États-Unis.
Effectivement. Bon, en réalité, dire une telle chose sur les femmes, bon, je trouve ça anarchique parce que les femmes ont également le droit sur leur vie. Et avec qui fonder leur famille. Moi particulièrement, bon, avant, quand on parlait de l'avortement, c'est un sujet que je n'aimais pas en parler. Et je condamnais franchement les femmes qui faisaient recours à l'avortement, juste parce que moi-même je sois confrontée à ce problème. C'est où j'ai compris beaucoup de choses.
Vous avez vous-même avorté, Raïssa, c'est ce que vous voulez dire?
Oui, j'ai moi-même avorté. Mm-hmm. J'avais une petite fille en bas âge et je suis tombée enceinte. Je ne pouvais pas garder la deuxième grossesse. Donc, j'étais obligée de faire recours à l'IVG.
Comment vous avez fait dans un pays où l'avortement n'est pas légal?
Effectivement, j'ai fait des recherches sur Google et je suis tombée sur un site, je crois, français, où j'ai pris des renseignements, j'ai posé avec des conseillers et des spécialistes qui m'ont rassurée, en fait. Et j'ai pu avoir clandestinement le produit que j'ai utilisé.
Une pilule abortive.
En cachette, en fait. Donc, personne n'a jamais été au courant de ça. Et Dieu merci, ça s'est quand même bien passé. Donc, c'est à partir de cet événement que j'ai compris que les femmes qui font l'avortement, elles le font pas parce que elles veulent ôter la vie. Bon, c'est involontaire. C'est vu les conditions de vie, la situation qu'elle traverse au moment. Donc, elle doit avoir le choix de décider. Donc, cette décision, vraiment, je la trouve injuste.
C'est une atteinte aux droits humains en général, même au-delà des droits des femmes, pour vous, Raïssa ?
Pardon ?
C'est une atteinte aux droits humains en général, au-delà des droits des femmes, même ?
Aux droits des femmes, c'est une atteinte aux droits des femmes. La femme doit disposer de son corps, elle sait ce qu'elle vit, elle sait ce qu'elle traverse. Donc, on doit laisser le droit de décider. Elle sait ce qui est bien pour elle et ce qui n'est pas bien pour elle.
Merci Raïssa de nous avoir appelé courageusement aussi pour nous parler également de votre propre histoire. Aminata Dembélé, Michel Thierry Atangana, Katia Roux, on va rappeler évidemment les événements de vendredi dernier. La Cour suprême a annulé l'arrêt Roe versus Wade qui reconnaissait depuis 1973 le droit à l'avortement au niveau fédéral. La décision d'aujourd'hui éloigne les États-Unis d'une tendance progressiste, a regretté la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Oui, on dit toujours les droits de l'homme pour les Nations Unies. Michel Bachelet, que vous inspire les uns et les autres ce recul historique des droits des femmes dans un pays comme l'Amérique, berceau de l'émancipation des femmes, mais aussi souvent annonciateur de tendances qui s'exportent, Katia Roux?
Alors c'est effectivement une décision historique et rétrograde en réalité ce qui vient de se passer. Avec cette décision, les États-Unis véritablement balaient avec violence des années et des années de mobilisation, de lutte pour les droits des femmes. C'est de ça dont il s'agit en réalité. Ces droits-là ont été acquis de haute lutte. Ce sont évidemment les droits des femmes, mais les droits humains aussi plus largement qui sont concernés, parce que avorter est un droit qui conditionne aussi beaucoup d'autres droits derrière. Et c'est tout ça en fait qu'il faut prendre en considération. Donc aujourd'hui, Amnesty se tient aux côtés de toutes ces femmes, des associations de défense des droits des femmes également, pour afficher la solidarité et puis aussi pour interpeller les autorités américaines, notamment les gouverneurs des différents États qui pourraient interdire ce droit à l'avortement, les interpeller en ligne, les interpeller autant que possible pour véritablement ne pas régresser encore en matière de droits humains et poursuivre le combat.
Aminata Dembélé.
Oui, c'est vrai que sur Change.org aussi, on a vu une vague de mobilisation émerger sur la plateforme, notamment aux États-Unis, mais on voit aussi qu'en France, il y a une caisse de résonance. On voit que ça se rapproche aussi sur le continent européen. La présidente du Parlement européen s'est ouvertement prononcée sur sa position contre l'avortement. En Pologne, ce n'est pas encore, c'est pénalisé en fait. Et en France, on a une mobilisation qui a vu le jour il y a quelques jours. Donc en moins de 48 heures, une mobilisation a atteint là plus de 15 000 signatures pour que le droit à l'avortement soit inscrit au sein de la Constitution. Et par rapport aux États-Unis, ce qui est intéressant aussi de relever, c'est que ça va accentuer les inégalités. On sait que les premières personnes qui seront aussi le plus touchées par ça, ça sera les personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer dans d'autres États pour pouvoir recourir à l'avortement. Et ce seront les premières personnes qui vont être victimes de cette annonce historique.
Michel Atangana, vous qui travaillez sur la détention arbitraire, il faut aussi bien comprendre qu'aujourd'hui, ça peut donner lieu à des peines de prison, en fait. Soit pour un médecin de permettre l'avortement, soit pour une femme d'avoir recours à l'avortement dans pas mal de pays du monde.
Et surtout aussi protéger les femmes qui pourraient avorter de manière clandestine. C'est dangereux. Et cette partie-là aussi n'est pas... Et à considérer.
Oui, c'est mise en danger de la santé des femmes. Katia Roux, triste ironie, un des épisodes du podcast en cours de production par Amnesty porte sur le combat sur la légalisation de l'avortement en Argentine. Légale depuis 2020, 30 décembre 2020. C'est une lutte qui est devenue emblématique en Amérique latine. Vous imaginiez que ce podcast allait sortir là dans les jours ou les semaines qui viennent avec une telle actualité aux États-Unis ?
Alors évidemment, on était en alerte par rapport à ce qui se passait aux États-Unis. On craignait le pire qui est arrivé, mais on est rattrapé par cette actualité. Effectivement, quand on a décidé, donc, dans le cadre de cette série de podcasts, de produire quelques épisodes sur cette question-là, c'est parce qu'on la sentait éminemment importante au cœur de l'actualité. Revenir sur le combat de ces femmes en Amérique latine avec cette marée verte qui a déferlé hein, sur les différents pays.
Les fameux foulards verts.
Exactement. Et qui montre en fait que c'est cette mobilisation collective qui fonctionne, qui a de l'impact au-delà de la sensibilisation, mais aussi des résultats qu'on obtient. Et là, effectivement, d'un coup, on est rattrapé par cette décision qui nous interroge sur la manière de se mobiliser, de continuer les combats, dans la durée également. Donc oui, cet épisode va sortir probablement après l'été, finalement. Il y a toute une série d'épisodes après les deux premiers qui viennent d'être publiés, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes. Je pense qu'il résonnera tout particulièrement au vu de ce qui est en train de se passer. Et j'espère qu'il amènera chacun et chacune à s'interroger sur ce qu'on peut faire à notre niveau et sur l'importance de faire passer ces messages.
Le sujet sera hélas toujours d'actualité à la rentrée. Vous qui vous mobilisez depuis si longtemps à Amnesty International pour mobiliser les citoyens, pour le progrès, pour les droits humains, est-ce que les États-Unis ne sont pas un cas d'école d'une mobilisation citoyenne à l'envers ? C'est-à-dire la mobilisation de la droite chrétienne contre les libertés individuelles depuis plusieurs décennies, qui a des méthodes très rodées pour mobiliser la société, pour faire pression sur les républicains, jusqu'à Donald Trump, et on a vu le résultat que ça a donné.
Alors, ce qui se passe aux États-Unis montre de toute évidence que c'est un combat de tous les instants, en réalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on obtient des victoires, qu'on obtient plus de droits, plus de libertés, ces libertés-là ne sont pas forcément acquises. Et ce qui se passe aux États-Unis nous invite à nous interroger sur la manière de consolider, justement, ces victoires, ces acquis, et d'une certaine manière, de ne pas régresser vers moins de droits et moins de liberté. Donc oui, le combat pour les droits humains, c'est un combat de tous les instants. Il n'est pas tracé, il n'est pas garanti. Il dépend aussi des mobilisations citoyennes. Je crois qu'on va largement en parler aujourd'hui. Et donc, c'est très important de faire passer ces messages-là, parce qu'on a souvent l'impression que c'est un combat éloigné, ou que ça ne nous concerne pas, ou alors que voilà, c'est pas le nôtre. Et au final, c'est la véritable question, c'est de quels droits on dispose et comment se battre pour garantir à l'ensemble de la planète ses droits et l'exercice plein et garanti de ses droits.
Ouais, et en face, vous avez d'autres personnes avec des méthodes largement aussi rodées que les vôtres.
Absolument.
Pour réduire les droits.
Tout à fait, on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on met en place des stratégies de mobilisation, de communication, de sensibilisation, d'interpellation des décideurs.
Ils utilisent les mêmes que vous ?
Absolument, ils utilisent les mêmes que nous parce que ce sont des outils qui sont à la disposition de tous. Les réseaux sociaux peuvent être un formidable outil d'interpellation directe des décideurs, mais aussi de diffusion de fausses informations ou d'incitation à la haine, à la violence. Donc c'est quelque chose qu'il faut user avec extrêmement une grande prudence et une stratégie, encore une fois, qui vise le bien collectif.
Aminata Dembélé pour Change.org, 10 ans de mobilisation en France, 10 ans de pétitions en ligne. Quels sont les combats qui ont particulièrement marqué l'histoire de cette plateforme concernant les droits humains, hein, parce que toutes les pétitions ne sont pas relatives aux droits humains, bien évidemment.
Alors tout d'abord, je vais rebondir sur ce que disait Katia. C'est vrai qu'aujourd'hui, les outils de mobilisation citoyenne sont vraiment des outils de lobbying citoyen. Donc c'est vraiment des outils qui permettent à des personnes qui sont parfois isolées, inaudibles, qui n'ont pas la capacité de pouvoir accéder à des sphères de pouvoir, de se faire entendre, mais de surtout rassembler autour de leur cause pour pouvoir faire plus de poids et vraiment créer une mobilisation collective, plus participative et qui va pousser les décideurs à réagir. Donc en termes de droits humains, on a eu une mobilisation assez emblématique en 2018 qui a été lancée par la jeune Ouïghour Gulumar Etiwaji. Donc elle avait 26 ans lorsqu'elle a mené sa campagne pour demander la libération de sa maman qui était détenue dans des camps chinois pendant 2 ans. Parce qu'elle était Ouïghour. Donc en fait, c'était vraiment une détention arbitraire, juste parce qu'elle était d'origine Ouïghour. Et la mobilisation a permis de rassembler plus de 450 000 personnes à travers notamment l'Allemagne, l'Italie, la France, mais surtout à permettre à Gulumar de lever l'omerta sur un sujet qui était tabou, qui n'était pas abordé dans les médias, et de se faire entendre afin de pouvoir engager des négociations, notamment entre le Quai d'Orsay et Pékin, pour que sa mère puisse être libérée.
Et puis il y a eu aussi, il y a beaucoup de mobilisations sur des droits humains, on va dire, élémentaires, contre la violence conjugale. Il y a eu une grosse pétition pour Jacqueline Sauvage, épouse battue, incarcérée pour le meurtre de son mari, qui incarne à elle seule le drame des violences conjugales. La création d'un numéro d'aide aux enfants victimes de harcèlement scolaire aussi. Il faut pas oublier que le harcèlement scolaire peut conduire au suicide de certains enfants. Il y a eu une pétition signée par près de 80 000 personnes. Alors que, bon, on a longtemps considéré que c'était un petit sujet, finalement, le harcèlement scolaire.
Pas du tout. Et ce qui est assez tragique, c'est que c'est un sujet assez récurrent chaque année et que la pétition a permis de mettre un éclairage sur ce sujet-là qui concerne des centaines, des milliers d'enfants en France. Et comme d'autres sujets, la pétition sur la lutte contre le harcèlement a permis de sensibiliser les enseignants sur le sujet, pour pouvoir apporter plus de sensibilisation et de pédagogie pour lutter contre ce fléau.
Comment vous pouvez, question peut-être idiote de ma part, mais comment vous pouvez vous assurer de la réalité des personnes qui signent une pétition ? Est-ce qu'il est possible de signer plusieurs pétitions sous différentes identités, par exemple ?
Alors, on a des personnes qui sont chargées de vérifier l'identité de la personne qui a lancé une pétition. Parce que lorsqu'on signe une pétition, on est obligé de l'associer à une adresse email. Donc, on ne peut pas signer deux fois la même pétition avec la même adresse email.
Aujourd'hui, ces pétitions ont un réel poids sur les décideurs politiques ?
Effectivement. Donc, on voit de plus en plus que des responsables aussi bien politiques ou économiques, voire même des institutions, prête un peu plus l'oreille. Donc aujourd'hui, une pétition, ce n'est plus une bouteille à la mer. On a vraiment un dialogue qui s'instaure. On a d'ailleurs un outil sur la plateforme qui permet aux décideurs de répondre aux pétitions qui leur sont adressées. Donc ça permet vraiment de créer un rapport direct, un dialogue entre les signataires et les personnes qui doivent répondre de ces pétitions-là. Et ça permet de favoriser un peu plus de collaboration, de transparence aussi, sans intermédiaire.
Michel Atangana, une grande partie de vos années d'incarcération en prison au Cameroun, à Yaoundé, vous connaissiez à peine l'existence des réseaux sociaux. Si ils avaient été aussi puissants qu'aujourd'hui, est-ce que vous auriez passé autant d'années en détention arbitraire ?
Emmanuel, je veux saluer d'abord Amnesty qui est là, puisqu'ils sont les seuls avec Freedom House aux États-Unis à avoir visité ma cellule. Et c'est une émotion pour moi de vous avoir ici. Et cette présence-là m'a aidé à sortir justement de le silence qui entourait mon dossier. Puisque, comme vous le savez bien, pendant 13 ans, mon dossier était totalement ignoré. Et quand RFI se mobilise, à partir des rapports d'Amnesty International
et de la mobilisation du département d'État américain.
Très bien, Emmanuel. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui me sauve la vie. Donc, je ne peux pas.
Vous sortez finalement de l'inconnu.
J'ai une précision. Quand je suis enfermé, je reçois RFI en bande FM, sans que mes geôliers le sachent. Et pendant longtemps, mon sujet n'est pas présent dans l'actualité. Donc, ça dure 8 à 9 ans. C'est interminable. Donc, c'est pour dire à quel point, quand une ONG. Quand un système de collecte des signatures participe, imaginez-vous le message qu'on envoie à quelqu'un qui est enfermé, qui ne voit pas la lumière et qui ne sait même pas combien de temps il est enfermé. Cela n'a pas de prix. Et vous sauvez déjà cette vie. Elle prend espoir. Elle se dit « je peux tenir encore quelques années ». Et en reprenant espoir, elle peut regarder face à face ses bourreaux. Et quand un procès revient à la 15e année, vous avez la force en sachant que les réseaux sociaux vont relayer l'information et quelque part, les accusations qui sont fausses commenceront à connaître un démenti national et international. Là, le Quai d'Orsay peut agir. C'est important.
Parce que derrière, il y a des ONG, mais surtout aussi des citoyens extérieurs aux ONG.
Même ceux qui vous gardent écoutent les informations. Ceux qui vous gardent se disent qu'un jour ou l'autre, cette situation peut changer. Donc, je n'ai pas intérêt à accentuer la violence que je porte à un individu. C'est très important.
C'est le cas notamment pour Ramisha qui a été libérée en janvier dernier, détenu égyptien en Égypte. La mobilisation générale a aidé aussi à améliorer ses conditions de détention.
Oui, je crois que c'est très important ce que vient de dire Michel, et c'est aussi ce qu'on explique dans le podcast sur Amichat, c'est qu'effectivement, il y a toute la mobilisation en direction des autorités, en l'occurrence égyptiennes ou camerounaises et françaises, pour faire pression, mais il y a aussi la mobilisation, les messages de solidarité. Et en réalité, et c'est aussi une des actions qu'on met en place à Amnesty International, il y a tout le travail de plaidoyer, d'interpellation, mais c'est aussi envoyer des messages aux personnes concernées, des messages de solidarité en prison pour leur dire « on ne vous oublie pas ». On a des milliers et des milliers de personnes qui envoient ce message-là à des personnes qui entendent à longueur de journée qu'ils sont seuls, qu'ils sont isolés, que personne ne pense à elles, qui est une manière aussi de les briser psychologiquement. Et quand on reçoit effectivement des messages de solidarité à l'autre bout du monde, en France ou ailleurs, de personnes qui disent « on ne vous oublie pas, on se mobilise pour vous, on a envoyé un message au ministère des Affaires étrangères ou à la présidence pour demander votre libération », effectivement, il y a quelque chose qui se joue. Et Ramisha nous disait encore il y a quelques jours que pour lui, ça avait aussi changé le regard de ses gardiens, de ses geôliers sur lui-même, qui se demandait même effectivement s'il était français ou d'autres nationalités parce qu'il recevait beaucoup de messages, notamment de France. Et quelque part, ça envoyait le message « on vous regarde, on vous regarde ». Et donc les conditions de détention peuvent aussi être améliorées du fait de cette mobilisation. En tout cas, les personnes concernées savent qu'on pense à elles, qu'on ne les oublie pas, qu'il y a une mobilisation. Et je pense, et Michel vient de le confirmer, que ça donne aussi une force pour tenir dans ce temps qui n'est pas neutre pour les personnes qui sont emprisonnées arbitrairement.
Mais aussi parfois en effet boomerang, ça devient aussi une monnaie d'échange.
Ça peut devenir une monnaie d'échange, mais si on arrive à atteindre aussi une mobilisation telle que la personne, le cas, sa situation est dans les médias, on en parle, effectivement, à un moment donné, on renverse le rapport de force en notre faveur.
On en parle et les citoyens s'y intéressent. Mais ça va au-delà des médias, bien
Emmanuel,
évidemment.
Pour être une monnaie d'échange, il faut avoir de la valeur. Si vous permettez, donc, la personne qui est arrêtée, elle est parfois humiliée parce qu'elle est sans valeur. Donc déjà, même arriver à la considérer comme monnaie d'échange, c'est déjà une victoire pour elle.
Et c'est une victoire sur les droits humains. Vous restez avec nous, les voisins, les voisines, bien sûr, vous pouvez nous appeler pour nous parler des mobilisations citoyennes, ces centaines de milliers de citoyens qui sont derrière les réseaux sociaux et qui se mobilisent pour les droits humains, des mobilisations qui, au mieux, n'intéressent pas vos gouvernants ou au pire, les dérangent et ils sont prêts à les réprimer. Vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après un désespoir du rap égyptien, les Jesse. Je ne sais pas si je prononce bien d'ailleurs. كله عالزبط كله عالنية كله في النية مستخبي باينة ومش مستهلة تركمها اخوك قريها اخوك قدرك لو عتتشقلب انا هديها كله عالخزنة كله عالفيزا حب على دماغنا حب جاب دغنا حب دغدغنا بس احنا نسينا لا دي مش سيما كله عالريل انا زيقت البارول عالديبو كله عالزبط كله عالنية كله في النية مستخبي تغنب خوفي مش نفعله كله زي ما بقولك زمالك كنا زمان نايمونا وشاب ودلوقتي فونا وما فيش حد فونا غير ربنا ما بنعطلش ومش معضلة ما بنعطلش ومش معضلة ما بنعطلش ومش معضلة ما بنعطلش ومش معضلة صاحي انا صاحي مفيش نوم صباحي الليلة دوب مشينا عالشوك وبنريح رجلينا فلو انت مش شايف سلام تشوف عندي اخوات وزمايل مش بتعد جمايل هنا بنخطط هنا في بدايل هنا انفاق شغل بياكل في الدقايق دول حبوني عشان حقيقي بجد دول كرهوني وصعبوني السهل تاتوهات كتير في كل حتة حتى عليك بينهم برضو النقص الدق مفيش حاجة هنا بتثبت فمش هثبت حاجة ومشيها ما بينا شك عفريت في مخي دايرة بتنهش كنت هخرب بيتها بس عيب تدت تتفك كله عالزبط كله عالنية كله في النية مستخبي باينة ومش مستهلة ترجمها فوق قريها فوق قدرك لو عتتشقلب انا هديها كله عالخزنة كله عالفيزا حب على دماغنا حب جاب دغنا حب دغدغنا بس احنا نسينا لا دي مش سيما كله عالريل انا زيقت البارول لعدي كله عالزبط كله عالمية كله في النية مستخبي كله عالزبط كله عالمية كله في النية مستخبي Yes. 7 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI. Aujourd'hui, on s'intéresse aux droits humains. Comment mobiliser les citoyens? Évidemment, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Quelles sont les méthodes de la mobilisation pour pérenniser, pour protéger les droits humains, les droits individuels à la vie privée? On en discute avec vous, Katia Roux, d'Amnesty International France, Aminata Dembélé, pour la plateforme de pétition en ligne change.org en France, qui fête ses 10 ans. Michel Atangana, militant actif de la détention arbitraire avec votre association Atangana. Et bien sûr, vos appels au 33 7 64 45 51 41. Emmanuel nous appelle de RDC, de Goma précisément. Bonjour Emmanuel.
Bonjour, chers journalistes.
Emmanuel, vous êtes en direct avec nous. Vous êtes membre du mouvement citoyen La Lucha et vous souhaitez attirer votre attention sur la façon dont votre mouvement citoyen tente de mobiliser l'opinion pour parvenir à des victoires, à des améliorations des droits humains, notamment dans le Kivu. Je précise que la cour militaire vient d'annuler la condamnation à un an de prison de 12 militants de la Lucha qui avaient manifesté contre l'état de siège dans l'est de la RDC. Est-ce que pour vous, d'ailleurs, c'est important, cette victoire, Emmanuel?
Oui, dans un premier temps, ça c'est une victoire que nous avons enregistrée dans ces 72 heures passées. Mais jusque-là, on ne le considère pas comme une victoire. Pourquoi? Parce qu'on attend la libération immédiate et sans condition de nos 12 militants, mais aussi d'autres militants de la Lucha qui sont incarcérés partout en RDC. Mmh. Mais comme vous le savez, par rapport au mouvement citoyen Lucha, c'est un mouvement citoyen qui, depuis 2012, essaie de se battre essentiellement pour la dignité humaine, la justice sociale, contre les inégalités sociales. Et nous avons pu observer d'ailleurs des changements au niveau de la base à partir des actions citoyennes que nous essayons de mener dans nos différentes villes et territoires, comme le cas par exemple de la réduction des arrestations arbitraires dans certains territoires comme Idui, grâce aux différentes campagnes d'alerte que nous avons mises en place. Mais aussi il y a l'accès à l'eau potable, par exemple dans la ville de Goma, même si la demande reste toujours très grande. Mais ce que je peux aussi noter depuis 2012 comme méthode d'action, c'est que nous revendiquons toujours l'accès à l'amélioration des conditions socio-économiques à travers une grande méthode, un grand principe que nous appelons la non-violence active, et cela à travers par exemple des conférences, des séminaires, de formation, de forums citoyens, de plaidoyers, mais aussi les dialogues sociaux que nous essayons de lancer dans la communauté. Et cela, c'est pour mener les citoyens à être plus exigeants, afin que les autorités aussi soient redevables par rapport à la question sociale dans nos différentes villes, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord aussi, en passant par le centre.
Et vous vous appliquez toujours aussi à mettre le doigt sur des problèmes très concrets qui concernent la vie quotidienne des citoyens. Vous citiez l'accès à l'eau potable, donc c'est un accès aux droits humains en tant que droit à la santé pour tous.
Oui, exact. J'ai cité en cas d'exemple cet accès à l'eau potable, mais au-delà de ça, il y a aussi l'accès aux soins de santé de qualité, parce que la Constitution en fait reconnaît aux citoyens d'accéder aux services sociaux de base, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit les infrastructures, que ce soit la paix, la sécurité, que ce soit l'accès par exemple aux champs pour cultiver, que ce soit l'accès au salaire décent de base, que ce soit l'accès au travail pour les jeunes, le bourse pour les jeunes. En fait, tout ça constitue en fait un cahier de charges que nous appelons front, que nous essayons de lancer dans la communauté pour que les autorités améliorent les conditions d'existence, les conditions de vie des citoyens congolais.
Merci d'avoir énuméré tout ce cahier des charges tristement réel hein, dans la vie quotidienne des citoyens en RDC, tout particulièrement à l'Est, et qui résume bien la somme de problèmes aussi auxquels les gens doivent faire face. Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir appelé. Vous pouvez continuer de nous téléphoner. Quelle mobilisation pour les droits humains? Comment mobiliser les citoyens? Vous pouvez nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Katia Roux, pour venir revenir au combat d'Amnesty International. Alors évidemment, Amnesty collabore avec les dossiers énumérés par la Lucha en RDC. Vous collaborez d'ailleurs à tellement d'organisations dans le monde. Comment vous choisissez les causes, les personnes à défendre? Sur quels critères votre organisation va décider de mobiliser l'opinion sur telle ou telle personne? Il y a tellement de personnes détenues à l'heure actuelle pour des raisons totalement arbitraires ou injustes.
Alors, c'est une question complexe, mais essentielle, effectivement. Alors, déjà, Amnesty International, c'est un mouvement international présent dans de très nombreux pays, dans toutes les régions du monde. Donc, il y a des sections nationales et toutes les sections peuvent traiter ou d'un sujet ou travailler sur des cas particuliers. Notre critère principal, on va dire, quand on travaille sur des cas, c'est d'essayer de trouver des cas emblématiques, des cas qui vont pouvoir porter la voix des sans-voix aussi, des cas qui, si nous arrivons à obtenir gain de cause, devraient avoir des effets positifs sur d'autres cas. On a évoqué la situation de Rami Chat en Égypte. C'est une figure emblématique du mouvement de défense des droits humains dans le pays, et sa libération a créé un mouvement positif aussi et a aussi un peu ouvert d'autres voies pour d'autres libérations. Donc c'est ça qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tellement de personnes emprisonnées arbitrairement. C'est compliqué de se mobiliser pour chacune d'entre elles avec la même intensité et dans la durée jusqu'à la victoire. Donc il faut réfléchir à des cas emblématiques qui permettent de sensibiliser suffisamment l'opinion publique pour la mobiliser dans la durée et obtenir des résultats. On a cette campagne annuelle tous les ans qui s'appelle 10 jours pour signer sur les 10 premiers jours de décembre où il y a 10 cas qui sont mis en avant. C'est pas parce que ces cas sont plus importants que d'autres, jamais. C'est parce que en obtenant des victoires sur ces cas, on espère en obtenir d'autres dans la région ou sur ces sujets-là. Donc il faut toujours aussi avoir en tête que ce sont des personnes, des situations qui incarnent des attaques, qui incarnent des combats. Et donc c'est en ce sens, bien sûr, on veut libérer ces personnes parce que leurs droits sont violés en tant que personnes, mais aussi pour ce qu'elles représentent. Parce que généralement, ce sont des militants des droits humains, des avocats, des membres de la société civile, des personnes comme Emmanuel de la Lucha qui se mobilisent, qui vont être visées pour ce qu'elles sont ou ce qu'elles font. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est obtenir des victoires qui en appellent d'autres pour petit à petit réduire les inégalités, réduire les discriminations, réduire les violations des droits humains et garantir un espace d'expression libre et critique aux sociétés civiles.
Mais comment maintenir ce combat dans la durée? Pour Rami Chat, c'est 900 jours de détention. Pour Solafa Magdi, journaliste égyptienne, 500 jours de détention. Et encore, évidemment, c'est rien par rapport aux 17 années, Michel Atangana, que vous avez passé dans les geôles camerounaises. Mais comment à l'heure actuelle, alors que les réseaux sociaux sont si puissants, si on regarde change.org, ce sont des pétitions qui font pchit, c'est-à-dire qu'il faut que ça aille très vite, il faut qu'il y ait beaucoup de signataires dans les jours qui suivent la mise en ligne de la pétition. Mais ensuite, que se passe-t-il? Est-ce que votre système de mobilisation à change.org ne va pas un peu à l'encontre d'un travail sur la durée?
Bah, je vais rejoindre ce que disait Katia sur la nécessité de la stratégie de mobilisation, parce que lancer une pétition ne nous permet pas forcément d'atteindre une victoire dans les quelques jours qui suivent la mobilisation. Il y a différentes étapes, il faut vraiment temporaliser la campagne, baliser sa demande et s'assurer vraiment de viser la personne la plus juste lorsqu'on lance une pétition. C'est pour ça qu'on a une équipe de chargés d'accompagner les personnes qui lancent des mobilisations pour les aider sur chaque étape de la mobilisation afin de les aider à faire aboutir leur cause.
Donc de lancer un débat de société aussi derrière.
Ah, c'est véritablement un débat qui se crée au sein de la société civile. Et nous, notre accompagnement va vraiment s'axer en majorité auprès de personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'être outillées aujourd'hui en termes d'outils numériques. Donc on va vraiment les guider pour qu'ils puissent avoir une histoire, qu'ils puissent avoir un écho, un engagement auprès des personnes qui vont lire la pétition. On va les accompagner aussi pour que la campagne devienne virale, puisque vous l'avez mentionné, les réseaux sociaux sont vraiment un levier à activer pour faire pression et pour permettre à la pétition d'exploser. Mais c'est pas tout, parce qu'on va aussi les aider sur comment instaurer un dialogue de plaidoyer avec les décideurs. Et tout ça, il faut le penser, il faut essayer aussi de réfléchir au bon moment de lancer la mobilisation. Quand il s'agit du cadre législatif, il est intéressant de s'intéresser au calendrier en fait, des législatifs pour savoir si une pétition peut être lancée à un moment qui sera plus favorable pour qu'elle puisse aboutir.
Et puis faire voyager aussi cette mobilisation, exporter cette mobilisation, ça veut dire aussi finalement démontrer à des citoyens à l'autre bout du monde que cette histoire-là pourrait les concerner. Il faut qu'on parle de la problématique de la double nationalité, notamment dans les cas de détention arbitraire, Michel Atangana.
Avant, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. Est-ce qu'Amnesty se rend compte que quand j'ai été libéré, 2000 personnes ont été libérées par le même décret
au Cameroun.
Au Cameroun, c'est important. Et après avoir été libéré, ou avant, les Nations Unies ont enquêté en se basant sur les travaux d'Amnesty International. Et cela a mené un avis des Nations Unies qui me concerne, qui, au lieu de l'abandonner, puisque tout le monde dit que les avis des Nations Unies ne sont pas obligatoires, mais j'ai continué à travailler. Donc il faut aussi former les citoyens, si vous permettez, et ces citoyens pour leur demander de continuer à travailler pour que leur droit à la réparation soit garanti et reconnu. Parce que sur mon cas, en arrivant en France, la porte est fermée. Bien, en insistant, on a obtenu récemment une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, grâce au député Pierre-Alain Raffan.
Pour garantir l'accès à vos droits élémentaires lorsque vous revenez
Emmanuel,
en France, vous avez la nationalité française, voilà. Il faut bien le préciser.
Et les droits sociaux qui vont avec. Donc, cette loi existe aujourd'hui. Et M. Dupond-Moretti a œuvré, et cette loi a été votée, l'amendement en question a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et permet donc au rapport des Nations Unies, aux expertises et aussi au rapport des ONG de participer à soulager la peine de ceux qui sont arrêtés. Ça, c'est très important. Et nous continuons aujourd'hui encore à travailler avec les maires pour que les municipalités relaient l'information, ces études faites par les ONG, pour que les maires soient des continuateurs de soutien à ceux qui sont en difficulté. Et là, les réseaux comme RFI, c'est très important. Et moi, c'est une émotion d'être ici. Parce que RFI, quand RFI relaie les informations, et je redis encore, ça fait reculer la violence qui est faite immédiatement sur l'individu. Maintenant, il faut que celui qui est libéré aide aussi les autres personnes à être sauvées. Aujourd'hui, quand une famille m'appelle, quand la tante de M. Lacruche m'appelle du Gabon en me disant « Attention, j'ai mon neveu, mes deux neveux qui sont enfermés. Parce que j'ai essayé d'écrire au Quai d'Orsay, je n'ai pas de résultat. Qu'est-ce qui se passe ?» Je dois me mobiliser. Donc c'est aussi donc j'ai besoin de relais d'Amnesty pour porter ces messages, y compris pour Rémi en Centrafrique, y compris pour François à Madagascar. Parce qu'un homme qui est enfermé 10 ans, 15 ans, et ça on peut aussi en parler, le quantum des peines. Les peines qui sont terribles pour une espérance de vie courte. Il y a des hommes et des femmes qui sont condamnés à 25, 30 ans. C'est une peine de mort déguisée. Donc c'est un aspect sur lequel, mesdames, on peut aussi travailler pour limiter les peines qui sont absolument intolérables, indignes. 30 ans de prison, 15 ans. Moi, j'ai 17 ans de détention en cellule, mais aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal, et j'ai même beaucoup de mal, à retrouver le rythme de la vie, à articuler, à parler, à m'exprimer.
Depuis 2014.
Et Emmanuel, ceux qui sont libérés, abandonnent complètement.
7 ans que vous avez été
libérés. Voilà. Je suis le seul bénéficiaire des avis des Nations Unies à être retourné auprès des Nations Unies pour leur demander comment faire pour appliquer les avis. Donc, c'est pour dire qu'il y a un travail d'éducation, de formation. S'ingérer n'est pas une provocation, c'est une éducation, une vocation. Nous devons sauver des vies.
Alors justement, puisque vous parliez de l'ingérence, pour revenir à la problématique de la double nationalité, en quoi ça complique la mobilisation pour une organisation comme Amnesty ? Certains pays ne reconnaissent pas la double nationalité, donc ne considèrent que la nationalité d'origine. C'est aussi un moyen de refuser l'ingérence d'un pays tiers qui se mobiliserait pour la personne détenue. C'est un moyen de conserver ce tête-à-tête entre la victime détenue arbitrairement et le pouvoir autoritaire.
Oui, tout à fait. Je pense que dans certains cas, dans certains contextes, ça va être le discours et le positionnement avancé. Pour autant, notre travail, c'est aussi justement non pas de faire de l'ingérence, mais de faire un travail d'interpellation, de plaidoyer, de défense des droits humains. Donc, quand on a des militants franco-camerounais ou
iraniens,
exactement, qui sont effectivement emprisonnés. On interpelle les autorités françaises qui ont une responsabilité, qui ont un devoir de se mobiliser, à travers leurs relations diplomatiques, leurs relations bilatérales, de pouvoir effectivement porter des demandes fortes et des positionnements forts. Et ça, effectivement, c'est un combat qu'on continue à mener. Et on n'acceptera pas, effectivement, une réponse en mode « on renvoie la balle, ce n'est pas de notre ressort ». Chacun a ses responsabilités, chacun doit les prendre.
Le département d'État américain qui m'a défendu, je n'étais pas américain. C'est pour dire que aussi la France, qui est le pays des droits de l'homme, doit être interpellée à chaque fois qu'il y a une victime qui fait appel à elle, même si elle n'est pas française.
Ça fait partie des engagements des États au niveau international, en réalité.
Voyez-vous, quand vous avez un homme comme le frère du président togolais qui est enfermé, nous parlons de la francophonie. S'il fait appel à la France, il doit pouvoir trouver assistance. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, madame, pour dire que ce qui importe, ce n'est pas la nationalité, c'est la vie humaine qui est en danger. Et la souffrance n'a pas de nationalité.
La deuxième saison du podcast d'Amnesty International, We Made It, donc on y est arrivé, hein, et qui décrypte bien les mécanismes de la mobilisation citoyenne à partir d'engagements de professionnels comme Amnesty International, mais s'intéresse à un pays démocratique, la Pologne, sur les atteintes aux droits des personnes LGBTI, les personnes donc, qui sont victimes de discrimination, hein, du fait de leur orientation sexuelle. Aujourd'hui, vous vous mobilisez de plus en plus sur des sujets d'atteinte à la vie privée et qui concernent des pays au fonctionnement démocratique. Est-ce que ça change beaucoup de choses pour vous ou pas ? On ne se mobilise pas de la même façon quand on travaille avec l'Égypte, un régime autoritaire et un pays démocratique ?
Alors, de toute évidence, on adapte notre action au contexte national et on adapte aussi notre stratégie. Ce qu'on constate, effectivement, c'est que les violations des droits humains aussi courts en Europe, aux États-Unis, comme on vient de le dire, on pense effectivement à la Pologne et la Hongrie, où les espaces d'expression de la société civile sont largement réprimés. Donc oui, vous l'avez mentionné, la deuxième série du podcast se concentre sur le combat de militantes polonaises pour les droits des personnes LGBTI et qui, de ce fait, du fait de leur combat, sont criminalisées, poursuivies. Donc on voit bien que ce combat, il est partout. On ne va pas forcément travailler de la même manière. Et de la même manière, les droits aujourd'hui qui sont attaqués, on parle des droits civils et politiques, on parle aussi des droits économiques, sociaux et culturels. Il y a une interconnexion de ces droits-là en réalité. Quand on touche au droit à la santé, quand on touche au droit à l'éducation, derrière, ça peut avoir des impacts sur le droit à la vie. Et tout est lié en réalité. Donc oui, il faut absolument adapter au contexte national. C'est pas la même chose de se mobiliser pour des libérations en Égypte ou pour la fin d'une persécution judiciaire en Hongrie. Donc il faut prendre en compte ce contexte-là, le régime en place, les lois, mais en réalité, ce qui prévaut pour nous, c'est le droit international. Et le droit international consacre ces droits civils et politiques au même titre que les droits économiques, sociaux et culturels.
Mais en même temps, quand on regarde les combats et les pétitions mises en ligne sur la plateforme change.org Aminata Dembélé, change.org France, on peut se poser la question si aujourd'hui, quand les gens ont un droit à faire valoir, si votre plateforme ne court-circuite pas d'une certaine manière les institutions démocratiques, la justice, les élus locaux, et qui se disent, mais ça va aller beaucoup plus vite de passer par la plateforme. Est-ce que il faut pas s'en inquiéter aussi ?
Alors c'est vrai que il arrive que les pétitions peuvent agir comme un droit de veto. Donc c'est vrai que quand il y a un projet de loi qui ne satisfait pas les citoyens, donc les citoyens peuvent décider de mener campagne pour s'indigner, mais agir c'est là en fait où la pétition peut avoir vraiment un impact, c'est que les personnes peuvent s'indigner sur les réseaux sociaux, on peut observer une gronde citoyenne et des discussions, mais la pétition va vraiment permettre aux gens d'agir et de pouvoir vraiment pousser les décideurs à répondre à leurs demandes. Après, on a aussi des cas où
les responsables... Vous précisez que vous avez été un important relais des Gilets jaunes, hein, notamment.
Alors, c'est vrai qu'on a eu une pétition qui a été le point de départ de la mobilisation des Gilets jaunes. Donc, c'est une pétition qui avait été lancée par Priscilla Ludowski. Donc, elle demandait à l'origine la baisse du prix du carburant à la pompe. Et sa pétition a permis, sans précédent, de créer ce mouvement populaire et de créer vraiment un contre-pouvoir.
Et de faire du pouvoir d'achat le premier sujet de la présidentielle aussi, du coup.
Ça a mis à l'agenda médiatique et politique un sujet qui concernait des citoyens qui n'avaient pas du tout l'ambition de se mobiliser dans la rue avant la pétition, ou bien même qui avaient un désenchantement politique. Mais la pétition a permis de regrouper ces personnes-là qui, à travers le territoire, se rassemblaient auprès d'une cause commune.
Alors, toute la question est de savoir si le pouvoir d'achat, ça peut être mis sur le même plan en termes de droits humains que de passer 17 ans dans une cellule de 7 mètres carrés. Sans vouloir apporter la moindre confusion au débat, aujourd'hui, les uns et les autres, est-ce que vous êtes optimiste pour la mobilisation citoyenne pour les droits humains? Michel Atangana, à la lumière de votre association Atangana, du travail que vous faites pour lutter contre la détention arbitraire.
Il faut être optimiste, mais il faut se battre. J'ai entendu tout à l'heure une expression qui m'a beaucoup plu, les droits ne seront jamais acquis. Il faut continuer à les travailler. Un philosophe posait la question à Jean Guiton, il demandait, mais au fait, que veut dire philosopher? Il dit, il faut creuser un trou et maintenir l'effort jusqu'au bout, pour trouver la racine. Donc je pense que les droits humains, il faut les faire. Moi, en ce qui me concerne, j'ai une décision de justice qui reconnaît que j'étais torturé à la base des travaux de l'Amnesty International. Novembre 2021, c'est-à-dire ça fait 25 ans que j'attends. Mais c'est une évolution. Une décision de la CIVI qui garantit mes droits à réparation aux droits sociaux. Ça fait 25 ans que j'attends. C'est une évolution. J'ai donc la possibilité maintenant aussi de voir que désormais, le pays qui m'a retenu a reconnu la partie loi économique qui est liée à mon dossier.
Le Cameroun.
C'est important. Et la France qui accepte aussi maintenant d'ouvrir un dialogue avec le Cameroun pour réparer. Tout cela, c'est la question qui m'a été posée. Il faut être positif, mais il faut continuer à se battre. Rien n'est acquis, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps.
Katia Roux.
Oui, pour faire écho.
On vous laisse le soin de conclure.
On est optimiste et on reste déterminé. En réalité, les mobilisations, elles ne se font pas qu'en ligne, elles se font partout, elles se font dans la rue, elles se font lors de rassemblements et puis elles se font à tous les niveaux, au niveau local, national, international. Et on a besoin de cette mobilisation collective pour avancer, pour justement ne rien considérer comme acquis et avoir plus de victoires qui en appellent encore d'autres.
Aminata Dembélé.
Je pense qu'il est important aussi de se reposer sur l'inspiration. On a des cas qui ont abouti et c'est ce qui fait que les gens continuent de garder l'espoir et de se mobiliser et d'avoir foi justement au pouvoir des citoyens d'exercer leur pouvoir politique. Et aujourd'hui, on attend justement des décideurs d'être un peu plus à l'écoute, d'être un peu plus humbles pour pouvoir prêter l'oreille et s'assurer de répondre aux demandes qui leur sont adressées.
Eh bien, merci à vous d'avoir participé à cette émission en direct. Merci bien sûr à tous vos appels, les voisins et les voisines, à vos messages. Aminata Dembélé, vous êtes directrice de la plateforme de pétition en ligne change.org France. Katia Roux, Amnesty International France, chargée de plaidoyer. Et Michel Thierry Atangana, vous êtes maintenant devenu un militant actif de la lutte contre la détention arbitraire. Avec votre association Atangana, vous avez passé 17 ans incarcéré dans les geôles camerounaises à Yaoundé, très précisément. Et je le rappelle, vous avez été libéré en février 2014. Et vous poursuivez votre reconstruction personnelle aussi via votre engagement citoyen. Voilà. Merci à vous tous. Demain, on se retrouve pour un autre 7 milliards de voisins. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver le podcast Amnesty International We Medit sur toutes les plateformes de téléchargement des podcasts et réécouter toutes nos émissions 7 milliards de voisins aussi en podcast à l'heure qui vous plaît, au jour qui vous plaît. Dans une minute maintenant, ce sera Le journal sur RFI.